Alors ce matin, je suis content d'être avec vous ce matin. On a eu un tellement beau temps d'adoration. Vraiment, on est choyé. Il y a quelques semaines, Joël nous parlait d'un défi. Le défi de vivre la grâce de Dieu au quotidien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le défi de vivre la grâce, d'être sous la grâce, puis de vivre conformément à cette grâce, qu'on n'est plus sous la loi. Et la semaine dernière, Benoît nous apportait un enseignement sur, il nous disait dans le fond, rendez-vous serviteurs les uns des autres. Et on avait vu ça dans Galates. Joël avait commencé dans Galates chapitre 5, les 12 premiers versets. Benoît avait poursuivi avec les versets 13 à 15. Et ce matin, on va voir la suite de Galates 5, la dernière partie du verset 16 à 25. Et ce matin, on va parler de marcher selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Juste avant, j'aimerais ça vous présenter une petite vidéo. Et ça va être une vidéo sur un accouchement. Ah! Un accouchement particulier. Un accouchement d'un girafon. Ah! Et c'est ma sœur Françoise Vignola qui m'a fait parvenir cette petite vidéo. Et je vais essayer de... On va se mettre dans l'idée. Je vais essayer de, avec vous, qu'on puisse faire un parallèle. Et des fois, on fait des analogies comme ça. C'est toujours un petit peu boiteux. Mais on va se forcer un petit peu. Quand vous allez voir la maman girafe, essayez de voir que c'est Dieu. Là, quand vous allez voir le petit girafon qui arrive, et imaginez que c'est toi qui arrives dans ta nouvelle vie. D'accord? Dans ta nouvelle vie. Et essaie de voir, il va se présenter trois choses, trois défis majeurs au petit girafon. Le premier défi, premièrement, vous allez voir comment il arrive au monde. Il tombe de haut. Une girafe, c'est haut. Et puis, son premier défi, c'est premièrement de se remettre du choc un peu de sa nouvelle vie. Et puis là, il va lever les yeux, puis il va voir sa mère, des grandes pattes, tout chaud, puis un grand cou, puis la tête en haut. Là, il s'identifie à sa mère. Puis là, son deuxième défi, son premier, c'est de se remettre un peu de son choc, de son cou. Et puis, son deuxième défi, c'est de se lever sur ses pattes. Vous allez voir qu'il travaille fort pour se lever sur ses pattes. Puis son troisième défi, je vous le dis pas, mais je vous concentrez votre attention sur les tout derniers bouts du vidéo, et puis là, on va y revenir tout à l'heure. Alors, si vous avez remarqué, le troisième défi qui était là, c'était quoi? Marcher! Parce qu'ici, le petit girafon, il était dans un zoo. Donc, les conséquences, s'il marchait pas de suite, c'était pas trop pire. Mais s'il avait été dans la jungle, dans son milieu naturel, c'est une question de vie ou de mort. Quand le girafon arrive au monde, il faut qu'il se lève rapidement sur ses quatre pattes, puis il faut qu'il se mette à marcher pour suivre le troupeau, parce que les lions sont autour, puis ils attendent leur souper. Alors la mère, vous avez vu la mère, avec quelle délicatesse, elle prend sa jambe, puis délicatement, mais elle lui montre par où, elle lui montre « marche, marche, marche ». Et c'est la même chose, le parallèle qu'on veut faire ici, c'est nous autres avec Dieu. Quand on vient au Seigneur, quand on l'accepte, quand on reçoit notre nouvelle nature, eh bien là, on se met debout, on voit Dieu, on adore notre Dieu tellement qu'il est grand, puis tout de suite, on doit se mettre en marche. Alors, ce matin, c'est ce qu'on va voir. Marcher selon l'Esprit, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Avant d'aller plus loin, prions. Seigneur, notre grand Dieu, on se présente devant toi ce matin. On est content, Seigneur Jésus, d'être ici dans cette assemblée. On est content, Seigneur Jésus, que tu sois notre Dieu, qu'un jour tu es venu nous rencontrer, Seigneur Jésus, et que tu aies pu entrer dans notre vie, dans notre cœur, que tu nous aies scellés de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, fais-nous du bien ce matin, Seigneur Jésus. Fais qu'on puisse prendre plaisir à ta parole, Seigneur Jésus. Qu'on puisse prendre plaisir à vivre cette vie en toi, Seigneur Jésus. Fais du bien à nos âmes ce matin. Rejoins-nous, parle-nous là où nous sommes rendus dans notre vie. Seigneur Jésus, on s'attend de toi ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans Galates, au chapitre 5, verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Et c'est Paul qui parle ici. « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et ici, il y a une série qui va suivre. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, la querelle, les jalousies, les animosités, disputes, divisions, sectes, envie, ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ici, le mot « commettre », ça signifie maintenir une attitude à long terme, vivre avec un mode de vie comme ces péchés qui nous sont mentionnés, qui nécessitent une durée, une persistance. Au verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, ont cloué, ont mis à mort la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ce matin, je vous invite à quelque chose. Est-ce qu'on puisse regarder ensemble trois tableaux? Trois tableaux qui vont nous aider à comprendre un peu plus ce que veut dire marcher selon l'Esprit. Le premier tableau, je l'ai appelé la chair. Alors, on va regarder qu'est-ce que c'est cette condition-là de la chair. Le deuxième tableau, ça va être la nouvelle naissance. Et le dernier tableau, on va parler du combat du croyant. Et avec ces trois tableaux-là, on va essayer de comprendre ensemble un peu plus ce que ça veut dire de marcher selon l'Esprit. Et le résultat de ça, c'est que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pour commencer avec le premier tableau qui est la chair, on va tourner dans Genèse, le premier chapitre de Genèse. Premier chapitre de Genèse, Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et un petit peu plus loin, au chapitre 2, verset 7, on voit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ici, Dieu, notre Dieu créateur, a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve, les animaux, toute la vie sur la terre, les plantes. Et le sixième jour, il a créé il s'est surpassé, on va dire. Il a créé l'homme et la femme. Mais il les a créés super, là, imagine-toi, là. Il a créé, il y avait un tas de poussière, là, mais il est Dieu, hein? De ce tas de poussière-là, il a créé Adam. Et il l'a créé avec un corps parfait, sans défaut. Tu peux imaginer, là, Adam, OK? Je sais pas, mais il était parfait. Un corps parfait, sans défaut. Et un corps incorruptible, qui n'avait pas de limite dans ce corps-là. Physiquement, il était bâti, créé. La machine a été bâti, créée pour vivre éternellement. Imagine-toi, là, éternellement. S'il se coupait un doigt, le doigt, il repoussait, certainement. Parce qu'il était bâti pour vivre éternellement, sans limite. Son corps physique, là, bâti pour l'éternité. C'est quelque chose de puissant, ça. Et il a donné à Adam une femme, Ève, qui a pris de sa côte. Et les deux vivaient, et puis c'est pas tout, là. Quand je dis de corps, je parle de corps physique, mais c'est pas juste ça qui fait la beauté de la création de Dieu. C'est que Adam et Ève étaient branchés, connectés, intimement reliés à Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ils étaient en communion intime avec Dieu. Et puis ils vivaient dans le jardin d'Éden. Alors c'était inimaginable, le cœur de Adam, comment il était heureux et content devant Dieu. Jusqu'au jour où le péché est arrivé dans ce monde, ou jusqu'au jour où Adam et Ève a cédé au péché. Et là, ça a été « bang ». Ça a été une rupture, une cassure, une brisure avec la relation de Dieu, la communion que Adam et Ève avaient avec Dieu. Wow! La connexion à haute vitesse a lâché. Au chapitre 3, verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela Adam, « Adam, 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 où es-tu, Adam? » Adam répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, mais j'ai eu peur parce que je suis nu, puis je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu aurais mangé l'arbre que je t'avais défendu de manger? » Puis là, on connaît la suite. On connaît que Adam a dit, parce que Dieu s'est adressé à Adam. Adam a dit, « c'est pour moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. » Puis la femme a dit, « c'est pour moi, c'est le serpent. » Tu sais, tout de suite, on voit tout de suite l'œuvre du péché dans la vie qui rentre dans ce monde, qui déresponsabilise. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est l'autre, c'est pas l'autre, c'est l'autre. On voit déjà l'œuvre du péché. Et je reviens à cette brisure parce que c'est important. Quand Adam a commis ce péché-là, le premier péché, la connexion a été brisée. Il y a une brisure avec l'Éternel Dieu. Et c'est pour ça qu'il était gêné, caché. Il shakait, lui, là, dans ses feuilles devant Dieu. Il était vraiment gêné, humilié. Il savait qu'il avait mal agi. Il était mal à l'aise. Et puis, il était se cacher dans le bois, dans ses feuilles. Mais puis, qui a fait les premiers pas? C'est Dieu. Dieu a fait les premiers pas. C'est pas Adam qui s'est avancé vers Dieu. C'est Dieu qui a recherché Adam, puis il a voulu entrer en contact avec lui, rétablir la communion. Mais la communication, elle ne sera plus jamais pareille comme elle était avant. Il y a eu une brisure, et ça, ensuite, on voit dans les passages qui suivent, on voit les conséquences à ça. La conséquence physique du super body d'Adam, qui était bâti pour vivre éternellement, mais là, maintenant, il allait avoir un corps mortel, qui allait avoir une fin à sa vie. Et on voit que les premiers qui ont vécu sur Terre ont vécu presque 1000 ans. C'était long, la durée de vie, au début. Mais aujourd'hui, les jours de l'homme ne dépasseront pas 120 ans que la parole de Dieu nous dit. On a une limite physique à notre corps. Et ce qui était plus grave encore que juste la limitation physique, c'est notre communication avec Dieu. Le lien parfait que Adam et Ève avaient avec Dieu, c'est fini, cela, là. C'est plus pareil comme c'était avant. C'est plus pareil. L'homme est maintenant déchu. Il est entaché de ce péché-là qui est transmis de génération en génération. Heureusement, il nous reste des petites traces de ce que étaient Adam et Ève au tout début. Il nous reste des vestiges, on pourrait dire, juste au niveau physiquement de notre corps qui était bâti pour vivre éternellement. On sait aujourd'hui que si on se blesse, on se coupe, bien, ça va guérir, ça va cicatriser. Ça, c'est comme un vestige un peu de notre super body que Dieu avait créé avec Adam. Puis au niveau de notre communion avec Dieu, Dieu nous a laissé deux petits vestiges. Le premier, c'est qu'il a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Qu'il a laissé dans l'homme la pensée de l'éternité. Puis il a laissé dans le cœur de l'homme la conscience, cette petite voix qui te dit « ça c'est bien, ça c'est mal ». Mais cette petite voix-là, facilement, tu peux l'étouffer. Puis plus que tu pèses dessus, plus que tu l'étouffes, que tu ne l'écoutes pas, plus qu'elle va parler faiblement, jusqu'au point de s'éteindre. Si on poursuit avec la génération future d'Adam et Ève, ils ont eu leurs enfants, Caïn et Abel. Caïn et Abel ont grandi, ils ont vu leurs parents âgés, ils ont vu la relation que leurs parents avaient avec Dieu. Et ici, il en ressort deux types. Tu as Caïn, le plus vieux, et tu as Abel. Un jour, les deux décident d'offrir une offrande à Dieu. Caïn, qui était cultivateur, il rassemble les plus beaux fruits, les légumes de son jardin, puis il décide de faire son offrande. Et Abel, de son côté, qui avait des moutons ou des brebis, je ne sais pas, là, il décide de prendre les premiers-nés de son troupeau et de les offrir comme un sacrifice. Il a mis le premier-né de son troupeau à mort, le sang a coulé, et c'était son sacrifice devant Dieu. Et la parole, qu'est-ce que la parole nous dit? C'est que Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, puis il a détourné, il n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Mais pourquoi tu regardes les deux, tu dis, les deux, ils ont fait chacun un sacrifice, avec qu'est-ce qu'il y avait? Ils ont fait de leur mieux. Mais il faut comprendre que Dieu ne regarde pas seulement au sacrifice, il regarde à ton intention avec ça. Le cœur de Caïn n'était pas connecté à Dieu comme Abel l'était. Et il a offert quelque chose de ce qui lui semblait de mieux, dans ce qu'il connaissait dans son monde matériel. Lui, Caïn, c'est plus le type de l'homme charnel, de la terre. Donc, lui, il a offert quelque chose de beau. Dieu, il va être content de ce que moi, je vais lui offrir. Il va être content. C'est vraiment ce que j'ai de mieux à lui offrir. Mais ça vient de ma chair. C'est moi qui offre ça à Dieu. Tandis que l'autre, Abel, avait probablement cette communion plus intime avec Dieu. Parce que Dieu, à travers la communion qu'Abel avait avec Dieu, Dieu lui a comme révélé que qu'est-ce qui plaisait à Dieu, c'était un sacrifice d'un animal qui allait être offert en sacrifice, qui allait avoir une mort, puis qui allait avoir du sang qui allait couler. C'est ça que Dieu voulait, agréait. C'était ça qui satisfaisait la justice de Dieu. Et c'est ça que Dieu prenait plaisir à cette offrande. Et Abel a répondu favorablement. Deux types de personnes, Caïn a existé réellement, Abel a existé réellement, mais ça nous laisse comme un type aujourd'hui, un genre d'homme. L'homme avec Caïn qui est plus charnel, l'homme naturel, et l'homme qui est plus spirituel avec Abel. Ça nous dresse un peu le tableau, le premier tableau de notre condition humaine. Notre condition humaine qui est une condition... C'est pas drôle, la condition humaine. Quand tu la regardes comme ça, le premier tableau, là, c'est vraiment l'homme déchu. L'homme qui a été à cause du péché, qui est pogné dans un corps qui est limité et qui a cette connexion avec Dieu-là qui n'est pas là de façon automatique. Dans le fond, honnêtement, il ne l'a pas. L'homme peut vouloir s'approcher de Dieu, peut faire des belles prières, peut vouloir... mais c'est toutes des choses humaines. Par lui, il va essayer de s'approcher de Dieu. Mais on voit les résultats avec Caïn. Il essaie de s'approcher de Dieu, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la condition naturelle de l'homme. L'homme, naturellement, de par comment il a été créé, comment il agit, et à cause du péché qui est dans sa vie, il est séparé de Dieu pour l'éternité. La condition humaine de l'homme naturel, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas un beau tableau. Heureusement, Dieu a pourvu à un moyen de sauver l'homme de sa triste condition. Et ça, on le voit, c'est le deuxième tableau que j'aimerais vous présenter. Et dans le fond, le deuxième tableau, c'est la nouvelle naissance. On a parlé de la première naissance qui est naturelle, l'homme charnel, naturel, l'homme ordinaire. Et la deuxième, ce qu'on va regarder, c'est l'homme, le nouvel homme. Et j'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. Ici, c'est une rencontre. On va voir Jésus qui rencontre Nicodème. Mais en fait, c'est un peu le contraire. C'est Nicodème qui, de nuit, va aller voir Jésus. Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, ou maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est rendu vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître encore de nouveau? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair donne de la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit donne de l'esprit. » Jésus est en train d'expliquer à Nicodème qu'il faut que Nicodème naisse de nouveau. Il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Ici, l'eau, c'est souvent dans l'Ancien Testament, on voit l'eau qui est associée à la purification. Dans plusieurs rituels, l'eau est utilisée pour purifier. Et ici, dans le Nouveau Testament, l'eau souvent est associée à la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Si on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe dans la situation de quelqu'un, qui est appelé, on va dire qu'il est appelé parce que c'est vraiment ça, appelé au salut. Parce que, comment ça se passe un petit peu? C'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est un act of God qu'on parle. Le Saint-Esprit, c'est comme s'il était là et il éclairait une personne. Il éclaire la personne et puis là, il va se servir de la parole de Dieu. C'est important que la parole de Dieu soit présentée. Il faut que la parole de Dieu soit dans le contexte. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit va se servir de différentes façons. Ça peut être une Bible que la personne lui est présentée. Ça peut être une partie de la parole de Dieu. Ça peut être une personne qui parle de la parole de Dieu, qui va citer des passages ou qui va simplement raconter le message de l'Évangile. Ça peut être à travers un chant ou des chants. Ça peut être de différentes façons. Mais il faut que la personne soit en contact. Il faut que l'eau de la parole de Dieu coule sur lui. Il faut que la personne soit en contact avec le message de l'Évangile. Et le Saint-Esprit, son travail du Saint-Esprit, il y a trois choses que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit, il convainc de quoi? Il convainc de péché. La personne, il faut qu'elle soit convaincue par le Saint-Esprit qu'elle est pécheur. Si ça, ce n'est pas fait, elle ne peut pas aller plus loin. Il faut absolument, et ça, ce n'est pas notre job, ça, de convaincre une autre personne qui est pécheur. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, que la personne est pécheur. Il va la convaincre également que la personne, il va la convaincre de la justice de Dieu, que Dieu est juste, puis qu'il ne peut pas laisser le péché comme ça, sans être traité. Dieu est juste. La personne, il faut qu'elle comprenne que Dieu est juste. Puis à cause que Dieu est juste, il faut qu'elle comprenne aussi, et ça c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il y a un jugement qui est là. Donc le Saint-Esprit convainc de trois choses. Convainc de péché, de justice et de jugement. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va convaincre le cœur de cette personne-là qu'elle a péché, qu'elle est séparée de Dieu pour l'éternité. Autrement dit, cette personne-là va comprendre le premier tableau qu'on a vu, qu'elle est pécheur et qu'elle est foutue. Elle est carrément foutue. Quand elle va mourir, elle va être séparée de Dieu pour l'éternité. Ça, là, c'est pas humain de comprendre ça. Ça ne se comprend pas avec notre tête. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui, arrosée avec la parole de Dieu, va amener une personne à comprendre la triste situation dans laquelle elle est. Qu'elle est pécheur et qu'elle est séparée de Dieu pour l'éternité. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Il va prendre cette personne-là et il va la diriger, la pointer vers la croix. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'éclairer la personne et de pointer vers le seul moyen d'être sauvé. La seule façon d'être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui puisse être nommé pour être sauvé. Il y a une seule personne par laquelle on peut être sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son œuvre, l'œuvre du Fils unique de Dieu qui est descendu sur terre et qui s'est offert lui-même pour le péché de plusieurs. Jésus, et c'est ça que Jésus essaie d'expliquer à Nicodème ici. Il dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut qu'il se passe de quoi dans ta vie? Et ce qui va se passer, c'est une œuvre de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va t'éclairer et c'est à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus dit à Nicodème, juste un peu plus loin dans le même chapitre 3, au verset 16. C'est Jésus, il lui dit carrément à Nicodème, il est à côté de lui, il lui parle. Il lui dit, Nicodème, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus parlait de lui-même, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse point, qu'il n'est pas vers la mort éternelle, mais plutôt qu'il ait la vie éternelle. La seule vie qui existe, c'est en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit va pointer cette personne-là vers la croix, vers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus qui a pris, qui s'est avancé volontairement devant son Père et qui a pris tous les péchés du monde, depuis Adam jusqu'au dernier, avant l'enlèvement. Jésus a pris tous les péchés et les a pris sur lui. Il s'est offert en sacrifice lui-même à son Père. Pourquoi il pouvait s'offrir en sacrifice? Parce que Jésus est Dieu et est 100% homme. Et quand il a vécu sur terre pendant les 33 années de sa vie, il a vécu sans aucun péché, rien, aucune tâche. Et puis Jésus a été harcelé de tous côtés par le démon. Il a été tenté en toutes choses sur la terre. Tous les péchés que tu peux penser, imaginer, Jésus a été tenté par toutes choses. Le démon, il a tout fait ce qu'il pouvait faire pour enfarger Jésus, le faire tomber. Il a tout essayé. Jésus a mené une vie parfaite, absolument parfaite. Et c'est pourquoi il pouvait s'offrir devant son Père en sacrifice parfait pour le pardon des péchés de celui qui allait placer sa foi en lui. Ça, c'est le deuxième tableau. Le deuxième tableau. Le premier tableau, on a vu l'homme charnel, la situation triste de l'homme, très triste. Le deuxième tableau, on voit que Jésus a placé une façon de s'en sortir. Il a placé une porte vers laquelle on peut se tourner. Et c'est la croix, le sacrifice parfait de Jésus à la croix. Maintenant, on va voir le troisième tableau qui nous amène vers une certaine réalité. Le troisième tableau, c'est le combat. Et ça, on va le voir à travers Romains. Je vous invite à tourner avec moi dans Romains. Romains, le chapitre 7. Au verset 14 du chapitre 7 de Romains, c'est Paul qui parle ici. Il dit, « Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, c'est Paul qui parle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. » Comment est-ce que Paul peut dire une affaire de même? Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, Paul, je suis charnel, vendu au péché. C'est le même Paul qui écrit ça, qui, 14 ans avant, on voit ça dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, que Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel. Il a été ravi jusqu'au troisième ciel. C'est comme si Dieu avait permis, dans la relation que Dieu avait avec Paul, dans la proximité que Dieu avait avec Paul, il a permis que comme si Dieu avait comme soulevé un peu, permettre à Paul que Paul puisse voir, contempler ce qui se passait un petit peu dans le royaume de Dieu. Et là, Paul a vu des choses indescriptibles. Il n'est pas capable de nous en faire une description. C'est trop grand qu'est-ce qu'il a vu. Il n'est pas capable de l'écrire et de mettre des mots là-dessus. Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel. C'est incroyable qu'est-ce que Paul a pu voir. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Dieu n'a pas permis ça avec beaucoup d'hommes, de montrer un peu qu'est-ce qu'il allait avoir dans le royaume des cieux. Et c'est ce même Paul-là qui, là on est comme 13 ou 14 ans après, Paul nous écrit, Paul écrit ça, « Mais moi, je suis charnel vendu au péché. » Il va un peu plus, si on continue. Il dit, « Car je sais que ce que je fais, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, Paul a la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Et ici, ça me fait penser un peu à Jésus quand Jésus dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ici, je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, Paul prenait plaisir à Dieu. Mais je vois dans mes membres, dans mon corps, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, dans mon corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Aïe, aïe. qui me délivrera de ce corps de mort? » Ici, dans la dernière expression qu'on a vue, certains commentateurs ont fait des recherches, puis ils ont vu que, bon, on sait tous que Paul est né, on dit Paul de Tarse, c'est parce qu'il a vécu dans la ville de Tarse. Mais proche de la ville de Tarse, il y avait une petite tribu du temps de Paul. Et puis, eux autres, il y avait une coutume bien particulière pour un criminel, un meurtrier, qui tuait sa victime, et puis qui était saisi sur le coup, pas longtemps après que la victime était décédée. À ce moment-là, savez-vous, c'est quoi le... Comment qu'il le condamnait? Comment qu'il était exécuté? Il prenait la victime, le corps de la victime, et puis il l'attachait au corps du criminel, du meurtrier. Il l'enchaînait bien comme il faut. Il l'attachait bien fermement, de façon qu'il ne puisse pas s'en défaire. Et puis, il laissait comme ça. Et puis, la personne ne pouvait pas s'en défaire. C'était impossible. Je ne sais pas s'il y avait de la surveillance ou pas, là. Je n'ai pas les détails. Mais cette personne-là, le corps qui était après lui, pourrissait. Et puis, il se décomposait. Et puis, tranquillement, avec les jours, les semaines qui passaient, mais ça venait contaminer le meurtrier. Puis imagine-toi un peu l'odeur que ça devait avoir. Imagine-toi les nuits qu'il devait passer. Il ne devait pas être capable tranquille de dormir tranquille avec toute cette odeur-là puis cette décomposition-là. Mais ce corps-là finissait par contaminer le corps de la personne qui était meurtrier puis l'emmenait à la mort. Alors, possiblement, ce n'est pas avec certitude, mais possiblement que peut-être Paul avait cette image-là, parce que ça s'est passé proche de son village. Peut-être que quand il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Peut-être il faisait référence à cette image-là qu'il avait déjà vue. Mais ça a un certain sens quand on y pense. Parce qu'on est une nouvelle nature. On est une nouvelle nature créée entièrement une nouvelle personne, une nouvelle identité. Je suis une nouvelle créature devant Dieu. Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est passé un miracle. Le Saint-Esprit est venu habiter dans moi, dans mon âme, dans mon corps. Et Jésus est venu dans mon cœur. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, il se passe quelque chose de miraculeux quand tu es une nouvelle créature. Mais en même temps, j'ai mon même corps. Moi, ça fait peut-être 31 ans que je connais le Seigneur, mais j'ai le même corps que j'avais. Il a vieilli un peu, mais à part ça, c'est le même corps. Il n'a pas été transformé, OK? Donc, la nouvelle nature, ça se passe à un niveau spirituel. Je suis une nouvelle nature, mais j'ai mon corps. Mais à un moment donné, ça va changer. Parce que le plan de Dieu, là, quand Dieu a créé Adam avec un corps parfait qui a été conçu pour vivre éternellement. Mais le plan de Dieu, Dieu encore ça en tête. Un jour, quand je vais mourir, je vais être en présence de Dieu pour l'éternité. Et un jour, Dieu va me donner un nouveau corps, un corps d'un aspect différent. Mais il va me recréer un autre corps. Ça, c'est à suivre. Maintenant, si je reviens à Paul, notre frère Paul, qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Imagine-toi, là. Puis là, qui vient de nous dire qu'il y a de la misère. Ce qu'il nous dit dans son texte, et ici, Paul, c'est un Paul qui s'est humilié, qui dit, oui, mon esprit prend plaisir, sa volonté est là, son esprit prend plaisir aux choses de Dieu. Il prend plaisir aux choses de Dieu, mais en même temps, honnêtement, il reconnaît que qui me délivrera de ce corps de mort? Il reconnaît qu'il y a des péchés. Et ça, c'est un Paul qui a une certaine maturité chrétienne qui parle, là. Ce n'est pas un nouveau croyant. C'est une personne qui est proche de Dieu, qui nous parle. Ici, dans la vie d'un croyant, quand quelqu'un remet sa vie au Seigneur, au tout début, il y a des gros péchés dans ta vie, gros de même. Et puis ça, c'est drôle, des fois, on entend des témoignages. Ces péchés-là, ça disparaît qu'ils se mettent tout seuls. Tu ne fais aucun effort, puis ça s'en va de ta vie. Il y en a qui ont vécu ça, qui ont des péchés dans leur vie quand ils sont venus au Seigneur, des grosses affaires, puis ils n'ont pas forcé, c'est parti. Il y en a qui ont vécu ça? Ça, je ne suis pas tout seul. Non? OK. Et en même temps, honnêtement, il y a d'autres péchés qui étaient là, mais il a fallu qu'il y ait un combat, un travail soutenu par l'Esprit-Saint, par Dieu. Mais il y a eu quand même un combat, un travail à faire. Il y en a ceux qui ont vécu ça, qui ont eu du travail à faire, qui ont eu du combat, qui ont eu des luttes à faire. Donc, on voit un peu les deux. Et savez-vous, plus qu'on grandit en maturité dans notre vie chrétienne, comme Paul ici qui parle, eh bien là, les péchés que Paul voit, écoute, lui là, c'est peut-être des petits péchés gros comme ça, comme un petit poids. Peut-être que c'est ce même péché-là, Paul, quand il est au Seigneur, peut-être qu'il ne le voyait même pas. Peut-être qu'il ne le voyait même pas quand il était au début de sa vie chrétienne. Mais là, aujourd'hui, il voit un petit péché gros comme ça, mais à cause que Paul est proche, tellement proche de Dieu, dans sa communion avec Dieu, ce petit péché-là gros de même, c'est comment qu'il voit gros? Il voit gros de même. Sa perception du péché, sa sensibilité au péché augmente plus que tu t'approches de Dieu, plus que tu es en communion avec Dieu, ta sensibilité au péché augmente. Tu vois le petit péché, tu le vois gros comme ça. Et c'est un peu dans cette idée que Paul dit qu'il se sent comme ça. C'est dans ses sentiments qu'il est comme ça. Il se voit, il est attristé, misérable que je suis, parce qu'il est attristé, son cœur est attristé. Il voit qu'il y a une communion avec Dieu, il veut faire la volonté de Dieu, il prend plaisir aux choses de Dieu, mais en même temps, il constate que ça ne marche pas comme il voudrait que ça marche. Ça ne marche pas. Il n'observe pas les résultats comme il voudrait que ça soit. Sa volonté est là, il veut ça, il prend plaisir à Dieu, mais en même temps, il constate que il y a de la... Tu sais, qui me délivrera de ce corps de mort? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Paul ici était humble, écoute, pour nous partager, pour nous écrire clairement ce qu'il ressent comme ça. Paul est vraiment humble. Il ne nous cache pas les choses. Il nous explique clairement que, oui, on a vu tout à l'heure qu'il y a l'homme charnel qui est déconnecté de Dieu. Il est comme ça, il est venu au monde comme ça, puis tout le monde en passe par là. Tout le monde a passé par le côté homme naturel, charnel. Dieu a appelé des personnes, il t'a appelé, Dieu appelle dans le fond. Dieu voudrait que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Dieu voudrait que tous soient sauvés. Mais seulement celui qui va placer sa foi en Jésus-Christ pour son salut va être sauvé. Va recevoir cette nouvelle identité, cette nouvelle nature qui est une nature spirituelle. Et Paul, voit ici, nous explique le combat du croyant. Le croyant qui est là, comme un petit peu le petit girafon qu'on voyait, il se lève, il voit Dieu, il prend confiance à Dieu, il aime Dieu, et il veut se lever, marcher comme Dieu. Marchons selon l'Esprit. Et nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. C'est une grande ordonnance, mais en même temps, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et on est appelé à le faire dans nos vies chrétiennes dès le tout début. Marchons, marchons selon l'Esprit. Laissons-nous conduire par l'Esprit. Et le résultat de ça, c'est qu'on va accomplir. On n'accomplira pas les œuvres de la chair. De moins en moins. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on marche par l'Esprit, moins qu'on accomplit les œuvres de la chair. C'est deux choses opposées. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu t'éloignes du péché. Ça va ensemble. Mais le combat est là. Et Paul, à la fin de ses jours, qu'est-ce qu'il dit, Paul, à la fin de ses jours? Il dit, il est content de lui parce qu'il a mené le bon combat. Il est fier, dans le fond, Parce qu'il a lutté toute sa vie, il a mené le bon combat. Il y a un combat qui est là. Il y a une lutte qui est là. Il ne faut pas avoir peur de la lutte. On est des soldats de Christ. On a été créés, on a été recréés, une nouvelle nature, mais en même temps, il y a un combat qui est là. Et affrontons le combat. Soyons des bons combattants. Et reconnaissons également qu'on a péché. Reconnaissons qu'on a péché. Dans Jean, c'est dit, dans la 1 Jean, au chapitre 1, c'est dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais plutôt, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » On ne peut pas se compter des farces, là. On a tous péché et on est tous dans cette lutte-là contre le péché. Mais Dieu nous a donné son esprit en nous. Et c'est Christ qui vit en moi. Et j'ai la volonté et je puis communier avec Dieu, mon Père, avec le Seigneur Jésus. Je peux avoir une communion, une relation personnelle avec lui. Je peux lui faire part de mes états d'âme. Quand ça va mal, là, quand ça va bien, quand ça va mal, quand je souffre, je peux en tout temps ouvrir la ligne et parler à mon Seigneur Jésus. Il m'aime. Il m'a sauvé. Il va passer l'éternité avec moi. Je suis sa créature. Et je peux être en confiance de lui confesser mes peines, mes douleurs. On a vu ce matin Paul qui dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » J'aimerais qu'on puisse terminer. On est de bonne heure. On va terminer en mettant nos... Je vous invite à répandre vos cœurs dans la prière. À répandre vos cœurs devant Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toi qui m'as créé, Seigneur Jésus, tu m'as créé à ton image, Seigneur Jésus. Tu m'as créé à ton image. Et Seigneur Jésus, je te remercie du salut que tu m'as donné. Merci de cette nouvelle naissance. Merci de cette nouvelle identité que tu m'as donnée. Merci que tu m'as appelé ton enfant, que tu m'as appelé frère. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Ton salut à la croix m'enivre, Seigneur Jésus. Je suis tellement content, Seigneur Jésus, d'avoir cette nouvelle vie. Merci du pardon de tous mes péchés, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour cette relation que tu permets avec moi, avec chacun d'entre mes frères et de mes sœurs. N'importe quand, Seigneur Jésus, je puis te parler, mettre devant toi mes fardeaux, mettre devant toi ce qui me fait mal, mettre devant toi mes joies, mes projets, mon bonheur, ma paix que j'ai. Seigneur Jésus, tu m'aimes tellement et tu veux tellement pour moi. Tu veux tellement me donner, Seigneur Jésus. Tu veux tellement vivre ta vie avec moi pour l'éternité. Et je ne sais pas qu'est-ce que Paul a vu quand il a vu le royaume qu'il n'était pas capable de décrire, mais ça me donne le goût, Seigneur Jésus. J'ai le goût de toi, Seigneur Jésus. J'ai le goût des choses que tu me parles, Seigneur Jésus. J'ai le goût de ton royaume, Seigneur Jésus. J'ai le goût d'être avec toi pour l'éternité, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus, à ton image. Je veux te ressembler, Seigneur Jésus. Je désire de tout mon cœur te ressembler. Je désire marcher selon ton esprit, Seigneur Jésus, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Merci, Seigneur Jésus, pour le travail que tu fais dans mon âme. Amen.